avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 30% de parlementaires en moins, 15% de proportionnels aux législatives pour une réforme qui serait adoptée en 2019. Le terme de climat ferait également son entrée dans la Constitution. Pour l'exécutif, c'est l'occasion de moderniser les institutions françaises. Mais les critiques pleuvent de l'opposition aux ONG, vous l'entendrez.
Lula doit être incarcéré. La Cour suprême du Brésil l'a décidé hier à une courte majorité. Ce vote met sans doute fin à la carrière politique de l'icône de la gauche qui espérait revenir au pouvoir.
À la une également, la suspension à 8 heures de la grève des cheminots pour mieux reprendre ce dimanche. Et puis, il devait participer à un débat sur la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte à Madrid. Mais finalement, sa chaise est restée vide. Hervé Falciani, l'ancien informaticien de la banque HSBC en Suisse, à l'origine du scandale des SwissLeaks, a été arrêté hier à Madrid à la demande de la Suisse. À la fin de ce journal, dans son billet économique, Jean-Marc Chardon nous dira comment les start-up investissent le marché des seniors.
Et puis, dans une quinzaine de minutes, Catherine, on va évoquer un point très important dans le conflit social autour de la SNCF, la dette. Qui va hériter de la dette de la SNCF? On posera la question à Gilles Dansart, journaliste, directeur du site internet Mobilettre.
L'Assemblée nationale élue en 2022 comptera 404 députés et 15% d'entre eux seront élus à la proportionnelle. Voici les dispositions phares de la réforme des institutions dévoilées hier par le Premier ministre Édouard Philippe. 30% de parlementaires en moins, une dose de proportionnelle. Cette réforme aboutit après un mois de consultation de Matignon avec les partis politiques, les présidents des deux chambres, dont le Sénat, où la droite est majoritaire. Mais hier soir, dans un communiqué co-signé avec le parti Les Républicains, le président du Sénat, Gérard Larcher, est revenu sur une partie de ses engagements, Stéphane Robert.
Cette réforme des institutions est le fruit de négociations et d'un accord qui semblait avoir été trouvé avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Finalement, il n'y aura pas de limitation du droit d'amendement en fonction de la taille des groupes parlementaires, pas non plus de suppression du département en tant que circonscription électorale, c'est-à-dire qu'on aura au minimum un sénateur et un député par département. Ça, c'était une des principales exigences de Gérard Larcher. Il a obtenu satisfaction. Tout comme sur la limitation du cumul des mandats dans le temps. Pas plus de 3 mandats consécutifs, certes, mais ce ne sera pas rétroactif. Cette disposition commencera à s'appliquer à partir des prochains scrutins, dans 3 mandats, 3 fois 6 ans, autrement dit une 20aine d'années, en 2040. Et puis, autre exigence satisfaite du président du Sénat, les maires des communes de moins de 9000 habitants ne seront pas concernés par cette limitation des mandats dans le temps. Restent maintenant les principales mesures, qui sont aussi les plus populaires. On va réduire le nombre de parlementaires de 30%, ça veut dire qu'on passe à 400 députés et 240 sénateurs. Et puis la réforme prévoit d'élire 15% des députés à la proportionnelle, ça représente entre 60 et 70 députés sur les 400. Sur ce point, Gérard Larcher semblait avoir accepté cette disposition. Seulement avec la colère des députés, les Républicains à l'Assemblée, pour qui la proportionnelle est inacceptable. Le président du Sénat s'est ravisé. Il dénonçait hier soir dans un communiqué une lourde erreur qui dirige la France vers un système à l'italienne.
15% de proportionnel, une aumône à la démocratie, a estimé pour sa part la présidente du Front National Marine Le Pen. Quant à François Bayrou, qui avait fait de l'introduction de la proportionnelle une condition de son soutien à Emmanuel Macron, le patron du Modem juge qu'il y aura beaucoup de choses à améliorer lors du débat parlementaire sur cette réforme. Autre source de mécontentement dans cette réforme constitutionnelle, le terme climat ferait son entrée dans le texte fondamental, mais pas à la bonne place selon des ONG de défense de l'environnement. Les explications de Samuel Léré de la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-fondation Nicolas Hulot.
Finalement, qu'a fait le gouvernement? C'est une séance de greenwashing constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le climat apparaîtrait à l'article 34 de la Constitution, dans un article annexe, alors que nous, ce qu'on demandait, c'était que la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité soient mis à l'article 1er. Celui qui est au cœur des institutions, celui qui définit la République, ce qui aurait permis de censurer toutes les futures lois qui aggraveraient la crise climatique. Et là, en mettant l'article 34 dans un article annexe qui définit simplement le rôle du Parlement, cela ne sera pas possible. C'est un coup de communication pour faire bien, mais ça n'aura pas d'effet sur le long terme.
Samuel Léré de la Fondation pour la Nature et l'Homme, joint par Sandy Dauphin. La réforme des institutions qui se décline en 3 projets de loi distincts, constitutionnels, organiques et ordinaires, sera présentée en Conseil des ministres le 9 mai prochain. L'exécutif espère un examen en première lecture avant la trêve estivale.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le jugement a été serré au Brésil cette nuit. 6 juges contre 5 de la Cour suprême. suprême ont estimé que Lula devait aller en prison.
L'ancien président du Brésil, icône de la gauche, donné favori pour l'élection présidentielle d'octobre prochain, avait été condamné en appel à 12 ans de prison pour corruption. C'était en janvier dernier. Il avait fait ensuite une demande d'habeas corpus pour rester en liberté jusqu'à l'épuisement de tous les recours judiciaires, ce qui aurait pu durer des années. Mais finalement, cette nuit, la Cour suprême a donné son feu vert donc à l'incarcération de Lula, de quoi changer le destin de l'homme âgé de 72 ans et de tout le Brésil, la correspondance d'Anne Vignard.
Il a fallu plus de 10 heures aux 11 juges de la Cour suprême pour décider de l'incarcération prochaine de l'ancien président Lula. Chaque juge a argumenté longuement son vote, parfois pendant plus d'une heure. À minuit, le score était de 5 à 5, mais le suspense était en réalité fini. On savait déjà que la présidente de la Cour suprême ne voterait pas à faveur de l'ancien président. Lula a assisté au vote depuis le syndicat des métallurgistes où il a commencé sa carrière à San Bernardo do Campo. Il n'a fait aucune déclaration en sortant, tout comme les ténor de son parti. Dans les rues, il n'y a pas eu non plus de grande mobilisation, la décision finale arrivant très tard dans la nuit. La bataille idéologique a plutôt eu lieu sur les réseaux sociaux, le sujet étant bien sûr très commenté par des millions de Brésiliens qui ont accompagné ce jugement. Sitôt la décision connue, des militants du Parti des Travailleurs se sont installés devant l'immeuble de Lula à San Bernardo do Campo et promettent d'y installer un campement. La décision de la Cour change le destin du président le plus populaire de l'histoire du Brésil, mais aussi celui de l'élection présidentielle qui aura lieu dans 6 mois. Lula ne pourra très certainement pas y participer alors qu'il était le grand favori de ce scrutin. Il ne devrait pas être incarcéré immédiatement. La décision revient au juge Moreau qui l'a condamné en première instance. Mais selon les spécialistes, cette décision pourrait intervenir très prochainement.
Anne Vignard au Brésil pour France Culture. C'est par lui que le scandale avait éclaté en 2009. Les Swiss Leaks, vaste système d'évasion fiscale mis en place par la filiale suisse de la banque HSBC, des milliards d'euros sur des comptes cachés. Hervé Falciani, le lanceur d'alerte franco-italien, ex-informaticien de la banque, a été arrêté hier en pleine rue à Madrid à la demande de la Suisse qui sollicite son extradition. Hervé Falciani avait été condamné en 2015 par contumace à 5 ans de prison ferme pour espionnage économique par la justice suisse. Les précisions à Madrid de Marie-Hélène Ballestero.
Hervé Falciani avait déjà été arrêté à Barcelone en 2012, mais la justice espagnole avait refusé de l'extrader vers la Suisse, car selon le tribunal de l'audience nationale à Madrid, les faits qui sont reprochés à Falciani ne sont pas passibles de poursuites en Espagne. Il avait donc été remis en liberté provisoire. 6 ans plus tard, l'histoire se répète. Selon le quotidien El Mundo, Falciani se rendait à une conférence à l'université madrilène de Comillas lorsqu'il a été arrêté par la police judiciaire. Ironie de l'histoire, la conférence avait pour titre « Lorsque dire la vérité est un acte héroïque ». C'est la justice espagnole qui va une fois de plus devoir trancher sur le sort de Falciani. Le 19 mars, la police espagnole avait reçu un nouveau mandat d'arrêt international en provenance de la Suisse. Et c'est justement dans le pays helvétique que deux leaders indépendantistes catalanes, recherchés par la police espagnole, ont trouvé refuge ces dernières semaines. Est-ce une coïncidence que Falciani ait été arrêté en Espagne ? La plateforme Xnet, version espagnole de Wikileaks, est persuadée que Falciani va servir de monnaie d'échange.
Retour en France, il propose une grande manifestation nationale commune le 5 mai prochain, un samedi. Le député de la France Insoumise, François Ruffin, auteur du documentaire Merci Patron, a renoué hier soir avec les accents de Nuit Debout. Assemblée générale depuis la Bourse du Travail à Paris, à 2 pas de la place de la République, en présence de plusieurs centaines de personnes, des étudiants en grève, du personnel médical ainsi que des cheminots. On y revient dans le journal de 7h30. L'ouverture du rail à la concurrence, l'un des motifs de la grève pour les syndicats du ferroviaire contre la réforme du gouvernement. La grève des cheminots qui s'arrête ce matin à 8h pour mieux reprendre dimanche et lundi prochain, selon le principe perlé de 2 jours de grève tous les 5 jours. L'ouverture du rail à la concurrence, nécessaire pour l'exécutif, potentiellement désastreuse pour les syndicats. Si la France a connu plusieurs vagues d'ouverture d'entreprises publiques monopolistiques, la comparaison la plus pertinente avec le cas actuel de la SNCF est sans doute celle avec les autres entreprises publiques dites de réseau, qui concernent l'électricité, les transports et les télécommunications, 3 secteurs stratégiques qui ont tous dû s'ouvrir à la concurrence à la demande de l'Europe, Anne Lorchouin.
Le précédent sur lequel s'appuient les plus hostiles à la réforme de la SNCF, c'est l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire. 12 ans plus tard, le bilan apparaît assez calamiteux, au point que même le rapport Spinetta s'en fait l'écho. Forte réduction du trafic, endettement massif, plans sociaux en cascade. Alors que seule la SNCF transportait des marchandises sur le rail jusqu'en 2006, aujourd'hui, 20 autres sociétés détiennent 40% du marché et tout ou presque perdent de l'argent à cause d'un sous-investissement chronique dans le réseau existant. Peut-être aussi parce que la vraie concurrence dans ce secteur ne se situe pas dans le rail, mais sur la route. Autre entreprise de réseau, France Télécom, devenue Orange après l'ouverture à la concurrence. Elle date d'une vingtaine d'années déjà, et aujourd'hui, Orange a réussi à rester un acteur incontournable dans le secteur des télécoms, présent partout dans le monde. Mais à quel prix? D'abord en frôlant la faillite, évitée grâce à un soutien de l'État. Quant aux salariés, ils ont dû changer de culture d'entreprise à marche forcée. Une vague de suicides entre 2006 et 2011 vaut aux dirigeants d'alors d'être renvoyés devant le tribunal correctionnel pour ce qui pourrait être le plus grand procès pour harcèlement moral jamais organisé en France. Quant à la Poste, elle a perdu, elle, son monopole en 2011, mais tout comme EDF, elle reste en position quasi monopolistique. Contrairement aux télécommunications, le marché du courrier, lui, est en déclin. La Poste a donc misé sur la diversification de ses activités, la banque essentiellement, mais aussi le passage du code ou le service à la personne, une transformation de son métier qui ne va pas sans poser là encore de problèmes sociaux internes à l'entreprise.
Le conflit salarial chez Air France s'est encore durci hier. 10 syndicats, tous métiers confondus, ont décidé de 4 nouvelles journées de grève. Ce sera les 17, 18, 23 et 24 avril prochains. Les États-Unis ont annoncé hier le début de la fin de leur mission anti-djihadiste en Syrie. La Maison-Blanche n'a pas donné de calendrier précis pour ce futur retrait. La Syrie, où la route orientale près de Damas est pratiquement de nouveau contrôlé par le régime de Bachar al-Assad, allié de la Russie. Seule la ville rebelle de Douma tient encore tête aux troupes gouvernementales. Mais jusqu'à quand? Analyse à suivre dans le journal de 7h30.